Bon, donc aujourd'hui, je vais continuer avec l'examen des réseaux à l'échelle mondiale construits à partir des Pays-Bas. Les Pays-Bas, même s'ils sont très, très proches d'une certaine façon, ont été un peu négligés, à mon avis, dans l'historiographie francophone par rapport à l'historiographie anglophone qui a toujours prêté beaucoup d'attention à ce qu'on a parfois appelé la première économie moderne ou même parfois la première société moderne, ça a été dit. Et c'est une question qui est toujours débattue autour des œuvres des historiens comme par exemple le néerlando-américain Jan de Vries. Alors, la semaine dernière, on avait commencé à regarder cette question à partir du problème de comment, en fait, dans une situation d'une espèce de surproduction de peintres, donc presque un excès de peintres dans le cadre des Pays-Bas au XVIIe siècle, les Néerlandais ont su construire une vision du monde, une vision donc qui a été rapportée par ces peintres, parfois des peintres voyageurs et parfois des peintres qui restaient aux Pays-Bas, mais qui avaient su néanmoins construire une vision du monde. Donc, on a passé en revue toute une série d'exemples, en commençant avec deux des exemples les plus connus, c'est-à-dire le cas de Franz Post et de Albert Eickhout dans le Brésil néerlandais des années 1630-1640. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié. Et par la suite, donc, on a considéré d'autres cas moins connus dans le cadre de l'Asie. Et finalement, on a terminé avec ce cas assez mystérieux, celui qu'on appelle parfois l'anonyme du Cap, qui a donc fait toute une série de dessins autour de la vie de la colonie du Cap à la fin du XVIIe siècle, donc aussi en prenant en compte les rapports entre les colons néerlandais et ce qu'on appelle aujourd'hui les Khoikhoi, mais qu'on appelait parfois dans le discours colonial de l'époque les Hottentots. Donc, on a vu comment, en fait, quelqu'un comme ce peintre, qui pourrait très bien être un certain Victor Victorsson, qui était peut-être le fils d'un disciple de Rembrandt, avait donc construit cette vision. Et alors, aujourd'hui, je vais passer à un autre aspect du problème, et ça, c'est aborder la question du monde, donc vu des Pays-Bas, en utilisant plutôt un angle d'attaque qui a à voir avec les collections, les collectionneurs et enfin donc le rapport entre collection, collectionneur, livre, imprimé, graveur. Donc ça c'est tout un ensemble qui a à voir aussi avec le fait que les Pays-Bas au XVIIe siècle étaient parmi les plus grands centres de production de livres imprimés. Entre autres, parce que les conditions, par exemple, de censure étaient très différentes par rapport à un autre endroit. Par exemple, si vous comparez Amsterdam avec Lisbonne, bien évidemment, les conditions de production sont tout autres. Alors, c'est une question qui a été abordée dans une série de travaux, surtout un certain nombre d'expositions. Là, vous voyez donc le catalogue d'une exposition qui a eu un certain succès. Il y a à peu près 20 ans, The World Beyond Handbrake, le monde à portée de main. Et là, dans cette exposition, on a voulu démontrer comment, à partir des collections qu'on voit aujourd'hui dans des endroits comme, par exemple, le Tropenmuseum ou le Rijksmuseum, mais aussi dans des collections privées, on a voulu donc construire ce monde. En passant donc de l'Atlantique, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, à l'Afrique et finalement à l'Asie. Mais souvent, le problème avec ce genre de texte, c'est que même si on accumule pas mal d'informations, le cadre reste toujours peu critique, et en fait, souvent, on est dans un cadre qui est carrément de la célébration, comme on a un peu tendance de faire, et ce n'est pas une coïncidence si parfois ce genre d'exposition, par exemple, c'est plutôt pour marquer les centenaires. J'ai un souvenir assez vif de 2002, qui certainement pour un certain nombre de personnes ici peut dire quelque chose, parce que 2002, c'est quand même le quatrième centenaire de la fondation de la Compagnie des Indes aux Pays-Bas. Et alors là, on a eu tout un débat parce qu'il y avait l'école de Leyde, l'école historique de Leyde, qui a voulu donc expliquer comme quoi les Néerlandais étaient ceux qui ont donc créé la globalisation. Donc ça a été repris dans un discours néolibéral. Par contre, il y avait une petite minorité d'historiens plutôt appartenant à l'école d'Amsterdam qui ont essayé quand même de critiquer un peu ce genre de vision du monde, à la fois très téléologique et aussi très peu critique envers le fonctionnement, par exemple, des Néerlandais en tant qu'empire colonial à partir du XVIIe siècle. Alors, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, parce qu'on a quand même une certaine tendance qui reste assez frappante de penser ces Néerlandais du XVIIe siècle comme des espèces d'hommes qui vivaient en quelque sorte au-dessus du monde, qui étaient des espèces de supermen en quelque sorte. À la fois, on a fait ça pour les peintres, mais souvent on a aussi fait ça pour les savants. Et on aura l'occasion de revenir sur ça en normalisant un peu leur fonctionnement, c'est-à-dire en reprenant ça d'un angle plutôt aussi d'une histoire sociale des savoirs. Alors, où commencer ? Et ça, c'est un exemple d'un texte qui nous aide à penser la question. Et c'est un texte qui est souvent pris comme une espèce de texte fondateur pour expliquer comment les Néerlandais ont pensé le monde. C'est un texte qui a été écrit et prononcé par Caspar Barlaus. Les Néerlandais au XVIIe siècle avaient souvent tendance d'avoir deux versions de leur nom, la version normale néerlandaise et une autre version latinisée, surtout si on avait quelques prétentions d'être un savant. Alors Barlaus, qui s'appelle donc Caspar van Barle, était un marchand, mais aussi quelqu'un qui était un humaniste, et donc qui a été invité à prononcer un discours, un oratio, dans les années 1630, et il a choisi comme thème le rapport entre savoir et activité marchande. Donc, il a prononcé ce discours devant une assemblée composée, bien sûr, par un certain nombre d'intellectuels, mais aussi beaucoup de marchands. Et juste pour vous donner une petite idée du genre de propos qu'il tient, je vais vous lire quelques passages. Et ça, j'ai pris sur l'édition critique. L'édition critique a été faite par Catherine Sacretan. De ce texte sous le titre « Le marchand philosophe ». Alors, voilà le propos de Barlaus. « J'ai donc jugé que je manquerais mon but si, devant un auditoire de marchands, devant des hommes avides de profit, au milieu de tintement de pièces, dans une ville vouée à la recherche du gain, je dissertais sur autre chose que le commerce, le profit, et la richesse. Non pas pour enseigner à commercer, mais pour enseigner à commercer de manière plus sage. Non pas pour enseigner les règles du profit, ce que j'avoue sont des tours ignorés, mais pour louer avec vous celles qui sont les meilleures. Non pas pour condamner l'amour des richesses, mais pour le contenir avec l'aide de la droite raison. Je montrerai qu'il y a une excellente alliance entre le commerce et l'étude de la sagesse et des lettres, et que le désir d'accroître ces richesses n'est pas contradictoire avec la réflexion de l'esprit, laquelle, en retour, ne s'oppose pas à ce désir. L'une et l'autre de ces deux facultés s'accordent sur d'excellents principes, si bien qu'à mon avis, le marchand aura d'autant plus de chances qu'il saura qu'il saura philosopher plus clairement. Voilà, donc ce genre de propos de Barlaus a souvent été pris comme quelque chose qui serait, disons, l'équivalent des miroirs des princes pour les marchands. Donc une espèce de miroir pour les marchands. Comment devenir un marchand donc sage? Et comme on verra, en fait, ce texte a souvent été pris comme donnant l'exemple à un certain nombre de grands marchands qui sont devenus des collectionneurs et parfois des savants au cours du XVIIe siècle. Alors, mais pour commencer à considérer comment cette alliance, disons, entre pratique marchande et pratique de savoir a fonctionné, il faut se déplacer un peu d'Amsterdam, là où il a prononcé le discours. Il faut plutôt aller à cette petite ville, mais une ville importante, qui est Leyde. Et c'est à Leyde, au début du XVIIe siècle, qu'on commence à voir dessiner un cadre dans lequel les Néerlandais vont essayer de penser le monde. Et alors, dans ce contexte-là, il ne faut pas oublier que même si il y avait des participants néerlandais très importants, il y avait aussi une influence qui venait de l'étranger. Et à Leyde, à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, le personnage très important qui a été étudié avec force détail, avec entre autres Anthony Grafton, c'est le personnage donc de Joseph Scaliger. Et là, vous voyez donc deux des disciples de Scaliger qui ont été très importants dans une certaine dans la formation d'un certain esprit à Leyde au début du XVIIe siècle. Donc là, vous voyez à gauche Jacob Golius et à droite Thomas Erpenius ou Thomas van Erpe. Et ce sont des personnes qui, comme c'était parfois le cas au début du XVIIe siècle, ont considéré que la meilleure façon de construire le monde, c'était à partir d'un savoir qui commençait avec l'arabe et l'hébreu. Et alors, donc, ce sont au départ des arabisants. Et donc, dans les deux cas, ils ont essayé d'écrire des livres sur comment apprendre l'arabe, les rudiments de la langue. Dans le cas de Golius, il y a aussi un lexicon. Mais alors, comment il faut quand même poser la question de savoir comment ils ont abordé cette question sans voyager eux-mêmes. Hein, parce que le cas de Golius et d'Erpenius, ce sont tous les deux des gens qui ne sont jamais partis de l'Europe, d'ailleurs. Et alors, là, on voit qu'il y a une forte alliance qui se construit déjà entre ces gens-là et les marchands. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un comme Erpenius a le pouvoir et le réseau pour rentrer en contact avec des employés de la Compagnie des Indes. Et donc, il est capable de demander à ces gens de revenir des Indes vu large, c'est-à-dire de l'Asie, avec des matériaux. Et donc, il va commencer déjà dans les années 70 à construire une collection. C'est une collection de manuscrits, car il n'y a pas d'imprimé à l'époque en Asie. Donc, c'est une collection de manuscrits, parfois des manuscrits illustrés, mais il en a très peu. Mais en grande partie, ce sont des textes, et des textes qui sont assez variés. Il y a des textes, bien sûr, religieux, car il y a aussi, dans ce milieu-là, un effort de critique biblique, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans le cas de Erpenius, c'est qu'il a aussi fait collection, des recueils de poésie. Et ces recueils de poésie vont au-delà de l'arabe, et les Néerlandais, au début du XVIIe siècle, donc, rencontrent déjà cet autre monde qui est le monde persophone. Donc, des textes en persan, parfois originaires de l'Iran, mais parfois aussi originaires de l'Asie centrale. Et ça fait partie donc, de cette collection qu'Erpenius a su construire. Et on le sait parce qu'à sa mort, sa collection a été vendue aux enchères. On a donc un catalogue de sa bibliothèque qui a été d'ailleurs acheté par le duc de Buckingham et d'ailleurs qui fait donc en sorte que c'est le début de la collection des manuscrits persans qu'on a aujourd'hui à l'Université de Cambridge. Donc vous voyez qu'il y a aussi une circulation à l'intérieur de l'Europe. C'est Erpenius qui va construire la collection, mais par la suite, la collection va partir donc en Angleterre. Donc, vous voyez qu'il y a cette tentative déjà liée avec le fait que ces hommes-là, ces savants, était lié avec le milieu d'Amsterdam, était lié avec les deux milieux, à la fois des gens qui sont partis en Asie et aussi, bien sûr, ils seront liés avec le milieu de Johann Mauritz et les personnes qui seront dans le Brésil et dans l'Amérique hollandaise du milieu du XVIIe siècle. Et là, vous voyez un peu la couverture possible. Si on est à Amsterdam dans les années 1620 ou à Leyde, on peut en principe donc avoir des contacts avec tous ces endroits-là, à l'exception bien sûr de la colonie du Cap, qui serait donc colonisée qu'à partir des années 1650. Alors, les résultats, les premiers résultats de ça sont visibles dans les années 1630. Et là, vous voyez deux de ces résultats importants. Donc, l'auteur de ces textes, c'est le même, mais il a donc écrit un texte de Imperium Anni Mogolis, qui est une espèce d'histoire de l'Empire moghol. Et de l'autre côté, vous aviez son autre texte qui est Historie of the Jarlik Verhaal. Donc, c'est une espèce de chronique dans le genre plus des annales de la Compagnie des Indes occidentales. Et celui qui écrit ces deux textes, c'est Johannes de Laat, humaniste, géographe, mais aussi quelqu'un qui, qu'on sache, n'a jamais voyagé lui-même. Donc, il n'est jamais parti des Pays-Bas, ou peut-être il est allé un peu en France, à la limite, mais il n'a jamais vu ni les Pays-Bas, ni les territoires en Amérique, ni les territoires en Asie, mais néanmoins, il a su écrire ces textes. Alors, comment fait-il? C'est assez simple, parce qu'on sait très très bien comment il a fait, au moins dans le cas de l'Asie. Il avait des informateurs. Et ces informateurs sont facilement identifiables. C'est qui, pour l'essentiel, dans le cas de l'Asie, il est en rapport très très proche avec quelqu'un qui s'appelle Francisco Pelsart. Alors Pelsart a eu une carrière très variée. Il a été dans l'Inde occidentale, dans la ville de Surat, autour des années 1620. Par la suite, il a été nommé au comptoir néerlandais d'Agra, donc c'est-à-dire la ville capitale de l'Empire moghol, toujours dans les années 1620, et il a fini sa carrière d'une façon un peu bizarre parce que vers la fin des années 1620, il était le capitaine de ce navire Batavia qui a fait un naufrage sur la côte occidentale de l'Australie. C'est une histoire un peu rocambolesque parce que, en fait, le naufrage est lié avec une mutinerie qui a été conduite par des gens qui étaient dans la tripulation, qui étaient des millénaristes de Harlem, qui ont voulu donc créer une espèce de royaume millénariste dans une petite île sur la côte ouest de l'Australie. Et donc Pelsart, qui n'a pas su contrôler ça, a payé très cher. Il a fini sa vie en disgrâce, mais il a quand même produit deux grands textes en néerlandais. Un texte qui est une espèce de chronique de l'Empire moghol, basé non pas sur une connaissance du persan écrit, mais basé sur une connaissance orale du persan, et un autre texte qui s'appelle Remonstranzi, et l'autre texte, c'est une espèce de description plus ou moins ethnographique de l'Inde au XVIIe siècle. Et il s'avère, et on peut faire la comparaison, ça a été fait, que si on revient sur le texte de Johannes de Laat sur l'Empire moghol, c'est pris parfois mot à mot sur le texte de Pelsart. Et donc là, on voit comment on peut construire un savoir sur le lointain sans vraiment avoir besoin d'aller très très loin, parce qu'on a donc ces espèces d'informateurs. Et finalement, Pelsart n'est pas le seul, parce que toute une série d'autres employés de la compagnie néerlandaise vont faire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire revenir aux Pays-Bas avec des écrits qui sont ensuite utilisés dans la machine de Leyde pour construire donc cette espèce de discours écrit sur le monde lointain. Alors, il s'avère qu'il y a d'autres textes qu'ils vont ramener, et parfois avec une espèce de circulation assez curieuse. Ça, je vais m'arrêter brièvement sur ça, parce que c'est probablement le premier texte imprimé en persan en Europe. Et c'est un texte qui s'appelle « Dastan et San Pedro », l'histoire de Saint-Pierre, Et c'est un texte, donc, qui a une histoire très curieuse. Le texte a été écrit, en persan, par un jésuite qui s'appelle Jérôme Xavier, qui était plus ou moins le neveu de Saint-François Xavier, et qui avait été envoyé en tant que missionnaire à la cour moghole. Et donc, on lui a demandé d'exposer les idées des catholiques, et il a donc su écrire toute une série de textes en persan, par exemple sur les 12 apôtres. Il a aussi fait un texte qui s'appelle Merat al-Quds sur la vie de Jésus, etc. Et ce texte-là, qui fait partie d'un de ses écrits, est tombé dans les mains des facteurs néerlandais. Et ils l'ont ramené aux Pays-Bas, où un humaniste de l'époque, qui s'appelle Louis de Dieu, Ludovico de Dieu, a donc fait une espèce de traduction. Vous imaginez la complication, le pauvre jésuite qui passe son temps à écrire ça en persan, et ensuite se retraduit en latin par le néerlandais. Mais vous voyez qu'avec l'intention de le critiquer, parce que c'est Historia Sempetri sed contaminata, parce que Louis de Dieu a beaucoup de peine à insister sur le fait qu'en fin de compte, ça, ce n'est pas du tout comme quoi, la façon de communiquer les vérités chrétiennes aux païens, mais en fait, ce sont des fables, des idées complètement absurdes qui ont été communiquées par ces jésuites, parce qu'ils sont des jésuites, et donc c'est une espèce de polémique contre les jésuites qui se base sur le fait de pouvoir faire revenir aux Pays-Bas des textes en persan qui sont en circulation en Inde moghole. Donc, vous voyez un peu le genre de cadre qu'on peut définir à l'époque. Mais en réalité, ce n'est pas que les textes qui arrivent aux Pays-Bas. Et je vais donc m'arrêter un peu sur cette autre question, c'est-à-dire le retour en termes de circulation d'images. Donc, on a vu quand même les images qui ont circulé en termes de la façon néerlandaise de dépeindre le monde. Et on a aussi, bien sûr, pensé à ça par rapport à ce texte et ses thèses. Et je vais revenir sur ces thèses de Svetlana Alpers, c'est-à-dire sur le décalage entre texte et image dans le cas néerlandais. Mais il s'avère aussi qu'à partir des années 1630, on commence à trouver des traces de peintures moghole qui arrivent aux Pays-Bas. Je dis des traces parce qu'on n'a pas ces peintures. Ce qu'on a, c'est par exemple dans quelques documents légaux, on a par exemple mention du fait que dans le cadre de mariage ou dans un autre cadre d'un héritage, il y avait donc ce qu'on appelle souvent Suratstekeningen ou Mogolstekeningen, des peintures ou des dessins moghols ou des dessins de Surat. Alors, on peut imaginer qu'il s'agit de quelque chose plus ou moins de ce genre, c'est-à-dire là, on est plus ou moins à cheval sur les règnes de l'empereur Jahangir et l'empereur Shah Jahan, et vous voyez un peu le genre de production à l'époque, mais on reste assez frustré pendant un certain temps parce qu'on sait qu'il y avait ces matériaux qui arrivaient, mais on n'a pas les traces concrètes pour savoir quel était leur contenu. Mais heureusement, quand on procède, on arrive à comprendre, pas directement, mais par une voie très particulière. Et c'est pourquoi ? C'est parce que Rembrandt les a copiés. Donc là, vous voyez les dessins de Rembrandt. Et souvent, ce n'est pas le cas ici, mais souvent, il met RH, Rembrandt Hermansen. Et il a au moins copié une bonne vingtaine de ces peintures venues de l'Inde. Par exemple, ici, on a un prince moghol en train de parler avec le roi. Parfois, elles sont des choses qui sont faites assez rapidement. Et là, vous voyez, là, il a signé. Parfois, elles sont faites, ils sont des dessins, c'est parfois des eaux fortes. Mais on se demande donc aussi pourquoi elle a fait ça et quel était le but de l'affaire. Vous avez quand même, comme j'ai dit, une bonne vingtaine. Et dans la plupart des cas, on voit que ces copies et pas l'original. Mais je vais vous montrer l'exception. Parce qu'on peut se demander pourquoi elle a fait ce genre de choses. Et la réponse ne nous est pas donnée directement par lui, mais c'est donnée par quelqu'un qui a écrit un texte que j'ai mentionné brièvement la semaine dernière, c'est-à-dire par Philips Angel, qui a écrit ce texte qui s'appelle « Lof der Skilderkunst »,« Éloge de l'art de peindre ». Et Philips Angel nous explique, au moins pour lui, pourquoi Rembrandt s'intéressait à ce genre de matériaux. Parce qu'il nous dit qu'en gros, pour dépeindre, pour arriver à comprendre le langage de corps des gens à l'époque ancienne, donc pour, par exemple, pour comprendre comment Moïse se tenait physiquement, comme on ne pouvait pas accéder à ce monde, et comme on n'avait pas un accès direct, la meilleure façon de faire, c'était d'aller chercher dans des pays lointains. Et donc, il y avait deux façons possibles de faire. Une façon, c'était d'aller voyager et regarder les postures et les façons de se tenir des gens avec ses propres yeux. Mais si on ne voulait pas faire ça, c'était tout à fait légitime de prendre leur propre dépiction, leur propre façon de se représenter et utiliser ça comme point de départ. Et donc, il nous dit que l'idée de Rembrandt, ce n'était absolument pas de faire des peintures mogoles. C'était plutôt d'utiliser les peintures mogoles pour arriver à accéder au monde du Vieux Testament ou même du monde donc, des anciens Grecs et autres. Voilà donc, vous avez, je viens de vous le dire, des dessins parfois d'une qualité assez variable, mais il y a quand même certains qui sont d'une qualité relativement bonne. Mais jamais on a, avec Rembrandt, le passage direct entre ce genre de dessin et des peintures que lui-même aurait fait dans le style mogol. Ça, il ne l'a jamais fait. Mais vous avez un cas qui est assez particulier, c'est le cas de ce dessin qu'il a fait. C'est une espèce de... Il n'a probablement pas compris le contenu, le vrai contenu de cette peinture, parce que c'est une espèce de peinture un peu symbolique qui démontre une espèce de conversation imaginaire entre les fondateurs des quatre ordres soufis. Mais c'était des gens qui n'ont pas vécu au même moment, donc c'est une espèce de conversation qu'on aurait pu imaginer entre ces quatre personnes si jamais ils s'étaient rencontrés, par exemple, dans un autre monde. Mais il a repris ça, et là, c'est exceptionnel parce qu'on a la peinture. La peinture est restée parce que ça a été manifestement vendu à la fin du XVIIe siècle, et maintenant on le trouve dans le palais Schönbrunn à Vienne. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour ce genre de choses parce qu'il a tout simplement pris la peinture et l'a collée sur les murs. Mais là, en regardant les deux, on peut aussi voir un peu ce qui fait Rembrandt, c'est-à-dire il y a une espèce de... Vous voyez que c'est assez typique de la peinture mogole qu'il n'y a pas de perspective dans le tapis. Tandis qu'il y a une espèce de mise en perspective, il va introduire un élément qui n'existe pas là. Il n'est pas intéressé par quelque chose qui, pour le peintre mogol, est très important, c'est-à-dire le fait que c'est un tapis flamand. Tandis que pour Rembrandt, le tapis flamand, c'est un élément banal, donc il l'enlève. Mais vous voyez un peu comment ça peut marcher. Il a aussi introduit donc, cet arbre qui n'était pas là dans l'autre. Je vous ai dit qu'il y avait... c'était collé sur le mur et on voit d'ailleurs qu'il y a une autre peinture. Vous voyez le pied d'un éléphant? Parce que ça, c'est l'autre peinture qui a été collée à peu près à moitié sur cette peinture mogole-là. Là, donc, on a quelque chose qui n'est pas exactement la même chose, mais assez proche, c'est-à-dire là, une version de Rembrandt et une version d'une peinture qui ne serait pas celle qu'il aurait utilisée, mais assez semblable. Donc, vous voyez un peu qu'il y avait parfois il était assez fidèle, hein, mais avec un but qui était un peu autre. Alors, mais d'autres peintres qui ont fonctionné plus ou moins au même moment, ont eu une autre idée de comment faire. Ça, c'est un peintre qui est beaucoup moins connu que Rembrandt, bien sûr, mais qui a été plus ou moins son contemporain, qui a fonctionné surtout dans les années 1640-50, et qui s'appelle donc Willem Schellings. Et Schellings était quelqu'un qui a beaucoup voyagé. On a d'ailleurs les journaux qu'il a réécrits, par exemple, quand il était en Italie. Il a aussi écrit de la poésie, plutôt mauvaise, mais il a surtout fait des peintures des paysages maritimes. Et on a un certain nombre de ces peintures de paysages maritimes, mais il y a quatre exceptions. Et ce sont les quatre peintures qu'il a faites, mais sur les thèmes moghols. Et là, on voit que c'est une espèce c'est une démarche qui est différente par rapport à Rembrandt, c'est-à-dire, lui, il a vraiment envie d'aborder ces thèmes exotiques. Donc, là, il y a quatre. Je n'ai pas pu avoir une version en couleur de celui-là parce que c'est parti dans une collection particulière et on ne peut pas accéder. Les gens de Christie's ont eu la gentillesse de me fournir cette image. Mais là, vous voyez que c'est une peinture que démontre le roi moghol avec des musiciens, etc. Cet élément-là, ce monsieur-là, en fait, vous voyez qu'il vient de l'autre peinture. Donc, manifestement, Schellings avait aussi vu cette peinture-là parce qu'il a repris plus ou moins la même personne. Il l'a mis dans le contexte de la cour moghole. Ça, c'est une espèce de fantaisie orientaliste, on peut dire, exotique, assez sexualisée aussi parce qu'il y a ces femmes-là qui sont pas tout à fait nues, mais à peu près. Il a aussi fait cette autre peinture qui est assez intéressante, qui démontre donc le roi moghol avec ses fils. Et là, donc, on est dans un cadre où on peut dire on est à mi-chemin entre une espèce de peinture orientaliste fantaisiste et quelque chose qui est basé sur une espèce de possibilité ethnographique, en fin de compte, parce qu'il il respecte quand même un certain nombre d'éléments qui sont venus de la peinture moghole, mais on peut aussi voir qu'il fait des choses qui sont assez peu probables. Par exemple, il y a, là, vous ne voyez pas probablement trop, trop clair, mais si on regarde, oui, il y a quand même là un perroquet qui n'a rien à voir avec l'Inde, mais qui vient manifestement des peintures sur le Brésil. Donc, il y a espèce aussi de tendance de faire des couper et coller, un peu de faire ramasser des éléments exotiques venant de tout horizon et de mettre tout cela dans le même cadre sans trop se soucier sur un aspect de rester fidèle à une réalité empirique. Et là, on peut d'ailleurs faire la comparaison avec les peintures de Eckhout, qui a lui aussi un peu tendance à faire ce genre de choses, et on peut contraster ça avec l'attitude, par exemple, de Franz Post, qui était quand même beaucoup plus fidèle à ce qu'il voyait devant lui, au moins dans les peintures qu'il avait faites au Brésil, à comparer avec les peintures qu'il a faites en revenant aux Pays-Bas. Mais il y a quand même deux autres peintures de Schellings qui sont plus intéressante parce qu'il y a là une espèce de jeu d'esprit qui est plus compliqué. Ce sont des peintures qui ont été très, très difficiles à interpréter. Il y a eu une controverse assez longue sur les deux. Ça, c'est quelque chose qui se trouve aujourd'hui à Paris, au Musée Guimet. Et vous voyez que c'est un jeu très compliqué. Vous aviez ici le roi moghol. Il y a ses quatre fils, mais chacun est assis sur quelque chose qui est une espèce d'animal composé. Donc, vous voyez ici qu'il y a un éléphant, mais l'éléphant lui-même se décompose en des femmes, des poissons, des animaux, etc. Même chose avec le chameau, même chose avec le cheval, et vous aviez là le père et le grand-père de l'empereur en apothéose dans le ciel. Donc c'est une espèce de peinture fantaisiste, oui, mais c'est une fantaisie qui se légitime parce que c'est basé sur les conventions mogoles même. C'est-à-dire, les Mongols, en fait, eux-mêmes faisaient des peintures des animaux composés. Et donc, vous voyez que Schelling est capable de rentrer dans le jeu des Mongols, de reprendre un peu leur propre convention, de détourner ces idées. Et bien sûr, il est possible, on n'a pas la preuve absolue, mais il est possible qu'il a à la fois ça et, par exemple, quelque chose comme Archimboldo en tête. Parce que vous voyez que Archimboldo, qui a été assez influent à Prague, et il y avait quand même tout un milieu de peintres néerlandais à Prague, il y avait manifestement des circulations des idées qui passaient entre les Pays-Bas et le Prague de Rodolf. Mais en tout cas, on a ces peintures de Schelling, et là, vous voyez qu'il a décidé de faire deux versions de la même peinture. Donc, c'est plus ou moins les mêmes animaux, les mêmes scènes, mais celui-ci est vu d'un côté, l'autre de l'autre côté. Il y a aussi, ici, assez explicitement, un aspect qui est un aspect théâtral. Parce qu'il y a une présentation qui se fait dans le cadre qui fait comme si le roi mogol est en train de regarder un passage d'une procession dans le cadre d'un théâtre qui serait à la fois la cour mogol. Donc on peut dire que on a d'un côté les gens qui font la collecte des matériaux géographiques, des matériaux ethnographiques, mais aussi donc cette arrivée à partir des années 1630 des peintures venant d'ailleurs, donc une espèce de tentative aussi de traduire les traductions de représentation. Donc c'est-à-dire il y a la représentation ou l'auto-représentation moghole. Et de l'autre côté, on a la tentative par les Néerlandais de reprendre l'auto-représentation des Mogols et de soit de le détourner comme fait Rembrandt, soit de le faire comme fait Schelling. Mais Schelling fait ça, bien sûr, sur deux registres différents, le registre purement exotique des deux premières peintures et cet autre registre qui est plutôt un registre, moi je dirais, ludique, où il va jouer avec ces matériaux. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur Schelling, mais un des aspects les plus intéressants que je viens de vous mentionner, c'est qu'il a fait un journal de voyage en Italie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était en Italie il accompagnait quelqu'un qui était un jeune Néerlandais. Et ce Néerlandais, c'est le fils d'un marchand très, très important. Et d'ailleurs, c'est un marchand qui s'appelle Laurens van der Hem. Et Laurens van der Hem, c'est un des mécènes qui a payé pour l'Atlas Blau. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de partage et de passage entre ces différents milieux, les collectionneurs qui ont dans leur possession des peintures mogoles, des gens qui vont fabriquer des représentations géographiques, etc. On peut avoir une petite idée de tout cela en regardant un texte qui nous vient donc plus ou moins de cette époque-là. C'est le texte d'un voyageur français qui s'appelait Charles Patin, qui est allé donc dans les Pays-Bas, qui a aussi passé par plus ou moins par la cour des Habsbourg à Vienne et par la suite en Allemagne. Et alors donc, je vous livre quelques réflexions de Patin. Alors ça, c'est Patin à Amsterdam. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'à Amsterdam, j'ai vu de toutes les curiosités et de toutes les espèces, des peintures que nous connaissons et de celles que nous ne connaissons pas, des tableaux indiens et chinois, d'un travail inestimable. On découvre dans ceci les plus secrètes particularités des histoires, de la façon de vivre et de la religion du pays. On y voit des martyrs qui sacrifient leur sang à la fureur de leurs ailes et il est permis d'appliquer si mal ce nom sacré qui n'appartient qu'aux héros de la vérité et de l'Évangile. Donc, en fait, il y a des martyrs manifestement qui sont inconnus pour lui. Alors, donc, il parle de toutes ces peintures-là, mais ensuite, il passe à la question de à qui appartiennent donc ces collections? Donc, il nous livre les noms des collectionneurs les plus importants. Ils sont qui? Donc, il dit, en premier, et on va retenir un certain nombre de ces noms, en premier, Monsieur de Witsen, Davidson, secrétaire de la ville à la première collection. Il semble que sa maison soit moins faite pour l'habitation que pour le plaisir des yeux. Ce n'est pas partout que magnificence et symétrie. On ne sait si c'est le cabinet qui se sert d'ornement à la maison ou la maison au cabinet. Il a des tableaux, des livres, des bustes, des antiquités, etc. Ensuite, qui sont les trois autres? Il y a donc M. Van der Hem, le même, donc celui qui est lié avec l'Atlas Blau, mais c'est celui qui était aussi lié avec Skellings. Et il y a deux autres, il y a M. Occo, ça c'est Lawrence Occo, qui est un personnage très intéressant, c'est un marchand d'origine de l'Allemagne du Sud, il est d'Augsbourg, et donc sa famille est venue s'installer aux Pays-Bas au début du XVIe siècle, donc Lawrence Occo. Et finalement, il y a M. Grill, qui est M. Anthony Grill, qui lui, c'est un Allemand, mais qui est venu aux Pays-Bas de Suède. Donc, il y a aussi un lien scandinave dans cette affaire-là, parce qu'il y a donc, bien sûr, ce va-et-vient entre le monde suédois et le monde des Pays-Bas qui est décrit ici. Alors, juste une petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer, c'est-à-dire il y avait manifestement aussi un certain nombre de Néerlandais au milieu du XVIIe siècle qui s'amusaient à se faire peindre par les peintres moghols. Donc, ce n'était pas seulement une question de faire la récolte des objets exotiques. Alors là, c'est un ambassadeur néerlandais qui a payé un peintre moghol pour produire ces deux peintures. Ça, c'est lui donc sur le chemin de l'ambassade. Et ça, c'est donc lui en conversation avec un certain nombre d'interlocuteurs indiens. Et ça, c'est encore une fois un aspect très ludique, c'est-à-dire plutôt qu'aller chercher l'exotique, on se met en scène dans un cadre exotique et on le fait venir. Donc, ces deux peintures se retrouvent aujourd'hui à Copenhague. Donc, vous voyez que déjà, au moment quand Charles Patin a passé à Amsterdam, et on est donc dans les années 1670, etc., il y a ce milieu, il nous donne les quelques noms des gens les plus importants, mais il en avait certainement beaucoup d'autres, car on ne sait pas dans quelle collection Rembrandt et Skellings sont allés regarder. Il se peut qu'ils possédaient les peintures eux-mêmes, mais c'est aussi fort possible que, plutôt qu'avoir acheté ces peintures, ils sont passés voir ça dans les cabinets de curiosité des uns et des autres. Mais en tout cas, vous avez aussi cette espèce d'objet qu'on peut plus ou moins décrire comme des objets hybrides, où l'Européen est déjà présent à l'intérieur de l'objet même. Mais il faut aussi prendre en compte donc, qu'il y a, au-delà de ça, il y a le monde du livre imprimé. Et là, on se met en rapport donc, avec la question de l'imprimé aux Pays-Bas au XVIIe siècle, et qui produit quoi, et dans quelles conditions. Les premiers textes qui ont été publiés aux Pays-Bas portant sur les mondes exotiques n'étaient pas illustrés. Et là, on voit encore un reflet de cette idée de Svetlana Alpers que le développement de l'écrit et la mise en texte d'un côté et le développement des aspects visuels n'allaient pas forcément de pair. Mais là, vous voyez donc un deuxième moment, on est déjà au milieu du XVIIe siècle. Les textes de Johannes de Laart n'avaient pas d'illustration, ni le texte sur l'Empire moghol, ni les textes sur le Brésil. Mais alors là, on est en 1651, un texte produit, et ce sont deux textes qui ont été écrits par des prêtres protestants. À gauche, vous aviez le texte de Rogerius, qui était un prêtre qui a passé à peu près une dizaine d'années en Inde du Sud. Ça s'appelle De Open Deur tot het Verborgen Heidendom, la porte ouverte à la gentilité cachée, ou quelque chose comme ça. Là, il nous fait une description de ce que nous, on décrirait comme l'hindouisme. Mais c'est un hindouisme très particulier. Il a eu accès à ça en parlant avec un brahman qui travaillait pour la compagnie néerlandaise. Et donc, il nous livre aussi quelques passages d'un texte assez connu en sanskrit de Bhartrahari. Mais à part ça, on est plutôt déçu du côté visuel. À part les pages de titre, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. L'autre texte que vous voyez ici, et ça c'est la version allemande, mais ça a été publié plus ou moins simultanément en allemand et en néerlandais, c'est le texte de Baldaus. C'est un texte qui est souvent traité comme un plagiat. C'est le cas d'ailleurs qu'il a pris énormément de choses, entre autres des textes qui étaient écrits par des jésuites qu'il a repris pour son propre compte. Mais là encore, vous aviez des illustrations qui sont plutôt de genre exotique. Il y a donc un passage assez long entre ce monde de peinture, de la circulation des images qu'on vient de voir, et le monde donc de l'imprimé. Mais ça commence à changer déjà dans les années 1670. Là, vous aviez deux images qui sont des représentations des villes en Inde. Ça, c'est la ville de Machilipatnam sur la côte orientale de l'Inde. Et ça, c'est la ville de Surat. Et vous voyez que le graveur est en train de jouer, et il prend beaucoup de liberté, c'est-à-dire ils sont extrêmement stylisés, et c'est encore plus clair ici que dans l'autre cas qu'il y a des éléments qui viennent, par exemple, manifestement, des éléments qui viennent de l'Afrique occidentale. Donc, il n'y a pas de passage facile entre quelqu'un qui aurait fait des dessins sur place et la version imprimée qu'on retrouve donc dans ces livres-là. Mais ces deux représentations, ça c'est la ville donc de Surat, ça c'est la ville de Machilipatnam, deviennent des classiques. Ils sont reproduits maintes fois, des dizaines de fois, comme des représentations donc véridiques de ce que serait l'urbanisme en Inde, tandis qu'en réalité ce sont des confections où le graveur a joué un rôle capital, et on ne sait même pas sur quelle base. Donc on ne sait même pas quelle était la version originale, si l'on avait fait par quelqu'un qui a vu ces villes en réalité, et la version qui est donc finalement sortie en imprimé. C'est même le cas avec, par exemple, ce texte-là, qui est un texte très intéressant, écrit par quelqu'un qui a passé énormément de temps en Inde du Sud. C'est un certain Havard. Et c'est un texte qui s'appelle donc Open Underhang von Coromandel, Croissance et déclin du Coromandel. Et lui aussi, vous voyez que quand il s'agit finalement de produire des images, ces images n'ont rien à voir finalement avec ce qui serait ni la tradition moghole de représentation, ni ces espèces de dessins qu'on a vus la dernière fois. C'est plutôt des images très stylisées, en reprenant une espèce de vocabulaire classique. On dirait presque, par exemple, ici, qu'on est en train de regarder une représentation d'Alexandre avec Darius, ou des scènes classiques de ce genre. Et même là où on est censé, c'est censé être le roi de Golconde en train de rendre visite aux Néerlandais, là encore, c'est vraiment assez stylisé, et ça peut avoir donc avec ce fameux réalisme néerlandais. Alors, donc, même si on a au milieu du XVIIe siècle cette explosion de textes, ces textes restent donc assez à l'écart de la représentation visuelle. Et quand je parle d'explosion de textes, les Néerlandais sont évidemment soucieux de parler de tout ce qui se passe dans le monde qui serait d'importance. Par exemple, le Néerlandais avait une connaissance d'assez près de la transition entre la dynastie Ming et la dynastie Qing dans les années 1630-1640. Il y avait Johann Neuhoff qui est allé rendre visite en Chine, qui a donc fait ce récit d'ambassade. Il y a eu des reflets assez intéressants de ça, c'est-à-dire, là, vous voyez une pièce de théâtre écrite par Joost Vondel, qui est donc une pièce de théâtre basée sur le récit de Neuhoff. Et ça, c'est une tradition qui va rester dans les Pays-Bas jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un événement capital, En Asie, par exemple, il y a aussi des pièces de théâtre autour de ça, par exemple, la transition dans l'Empire moghol, l'histoire de Nadir Shah dans les années 1740, etc. Mais ça, c'est un des exemples les plus connus, parce que Vondel, c'est quand même un des écrivains les plus célèbres du XVIIe siècle néerlandais par rapport donc à ce texte de Nieuwhof. On voit le passage. Mais toujours sans image. On n'a pas d'idée de comment ça a été représenté, par exemple, sur scène, mais on peut se demander si ça n'était pas plus ou moins une espèce d'exotisme banal quand ça a été représenté visuellement. Même si Nieuwhof lui-même est arrivé à faire des images un peu plus, avec soucieux de l'ethnographie, là, vous aviez donc quelques images qui viennent de Nieuwhof. Ça, c'est censé être des prêtres ou des moines chinois. D'ailleurs, il faut dire aussi que les Néerlandais étaient soucieux de ne pas seulement publier leurs textes en néerlandais, mais souvent il y avait assez vite des traductions en français et des traductions en allemand des textes qui sont sortis dans les 2-3 ans après leur version originale. Alors, maintenant, il faut quand même essayer de comprendre comment ça fonctionnait en tant que système. Et je vais prendre donc comme exemple, et en revenant au texte de Barlaus, vous voyez le texte sur le marchand philosophe, je vais reprendre un cas précis, et ça c'est un cas qui est, pendant assez longtemps, a été relativement obscur, mais maintenant il y a quand même des travaux, et ça c'est le cas de Nicolas Witsen. Je viens de mentionner le nom de Witsen. Witsen est mentionné donc par Charles Patin comme le premier collectionneur d'Amsterdam. Il a aussi été le burgemeester, il a été le maire de la ville à 13 reprises, si je ne me trompe pas. Et vous voyez en fait que Marion Peters, qui a écrit une biographie de lui, a repris comme titre de sa biographie, justement, une autre version du titre du discours de Barlaus. Donc, comme si lui, il incarnait en quelque sorte cette espèce de marchand philosophe de Weyse Koopman. Nous a présenté toute une série de matériaux, car l'avantage qu'on a avec Witsen, c'est qu'il nous a laissé un archive assez considérable. Alors, qui était Witsen? Witsen, donc, qui a vécu entre 1741 et 1717, il nous a laissé un petit récit autobiographique dans lequel il parle plutôt de ses contacts et ses connexions. Par exemple, il passe un certain temps à nous décrire comment il est allé en Angleterre avec son père et comment son père était très proche de Cromwell et comment lui, en tant qu'enfant, a joué avec les enfants de Cromwell. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui a un certain niveau de circulation. En réalité, c'est une famille qui a fait fortune dans le commerce avec les Russes. Donc, il était très lié avec la Russie. Et on sait que dans les années 1690, quand Pierre le Grand est venu aux Pays-Bas, c'est lui qui a traité de son séjour et il a été donc hébergé dans les maisons des amis de Witsen. Et d'ailleurs, comme Witsen était aussi quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la construction des navires, et Pierre le Grand aussi. Alors donc, il y a eu des conversations entre les deux autour de ces questions-là. Witsen a écrit quelque chose. Il n'a pas énormément écrit, mais ça, c'est un des textes qu'il a quand même écrit, qui s'appelle donc « Nord and Ost Tartary », « La Tartarie du Nord et de l'Est ». Et c'est une tentative, peut-être une des premières tentatives, de nous livrer une espèce de vision de ce que serait l'Empire russe, vu large, et entre autres aussi dans ses rapports avec l'Asie centrale. Et une partie de ce texte-là se base sur les notes que Witsen avait lui-même prises quand il a été envoyé dans une ambassade à Moscou, dans les années 1660. Alors Witsen, donc, vous voyez ici, il est donc quelqu'un qui est extrêmement connu à son époque. Il est très, très bien lié avec plusieurs réseaux, des réseaux de marchands, des réseaux de savants, etc. Et il est donc quelqu'un qui est aussi connu comme cartographe. Là, vous voyez donc la vision de l'Empire des Russes, donc aussi de Tartarie, la Chine occidentale, dans la version imprimée de son livre. Donc, il est connu aussi comme cartographe. Si on regarde le livre de Madame Peters, il est en quelque sorte, c'est un livre de célébration qui nous dit en gros qu'il est en quelque sorte le comble du savoir néerlandais de la fin du XVIIe siècle. Mais alors, je veux normaliser un peu Witsen et je vais le faire assez rapidement. Alors donc, ce que je vous propose, c'est que Witsen, même s'il peut écrire ses textes à partir d'un savoir direct, il a aussi construit un réseau très important. Et ce réseau se base sur plusieurs personnes qu'on peut identifier. Et ce sont des cartographes, ce sont des peintres, ce sont des employés qu'il a su envoyer un peu dans différentes parties du monde, qu'il a payés. Et là, on peut donc penser à son réseau à partir de deux, trois noms. Je vous livre à part lui, donc ces deux autres noms qui sont importants. Il a des connexions très proches avec l'aristocrate italien Giovanni Altorio Baldini, qui a lui-même une collection à Piacenza, qui est donc achetée par lui, mais aussi en partie achetée par Witsen dans une espèce d'échange qu'ils ont entre les deux. Finalement, il y a ce personnage de Cornelius de Bruyn, qui est donc assez connu, un peintre qui a aussi passé du temps donc dans le cadre français, il est connu donc comme Cornelius Le Brun, et qui lui-même était donc voyageur. Là, vous voyez donc de Bruyn avec son récit de voyage, aussi sur Moscou, sur Perse, sur l'Inde. D'ailleurs, ce qui est très important pour nous, c'est pas seulement que, par exemple, ça c'est Isfahan, vu par Cornelius de Bruyn, mais ce qui est vraiment très très important pour nous, c'est le fait qu'il a aussi fait ses collections de peintures pour Witsen. Donc ça, c'est ce qui est resté de ça à Amsterdam, dans ce qu'on appelle le Witsen Album. Vous voyez ici l'empereur moghol Aurangzeb, et ici, vous voyez le roi Marat Shivaji. C'est dans la préoccupation aussi de pouvoir analyser les caractères de ces hommes à partir de leur physionomie. Donc on a aussi une petite réflexion assez intéressante dans les marges parfois de ces textes sur ce qu'on peut entrevoir en utilisant ces images. Et là, vous voyez donc un des autres albums des collections de Cornelius de Bruyn, celui qu'il a acheté donc pour Witsen, mais qui est passé finalement dans la collection de Baldini et qui se trouve aujourd'hui dans la Bibliothèque nationale ici à Paris. Donc, vous voyez qu'il y a ces agents qui vont partir avec les commandes de Witsen, mais il y a aussi, bien sûr, un espèce de réseau qui va au-delà de ça et finalement, on va arriver jusqu'aux limites de l'Asie, car le réseau de Witsen, ce n'est pas seulement des gens comme Le Brun qui s'intéressent essentiellement à l'Asie occidentale et à l'Asie du Sud, mais ce très, très célèbre Allemand, Engelbert Kämpfer, qui, lui, a passé à peu près une quinzaine d'années en Asie, qui a été tout d'abord envoyé dans le cadre d'une ambassade suédoise en Iran dans les années 1780, excusez-moi. Ensuite, il a été à Thaïlande et il a terminé sa carrière en Asie avec toute une période où il a été au Japon. Et donc Kämpfer, qui dans le cadre de sa vie au Japon, va écrire énormément de choses, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est en rapport avec d'autres personnes comme Van Reede. Donc il y a aussi un réseau de circulation de matériaux sur la botanique, etc. On aurait donc certainement beaucoup plus de choses à dire à l'égard des gens comme Kämpfer, mais je vais m'arrêter là pour revenir à quelques réflexions d'ordre plus général. Donc vous voyez un peu comment quelqu'un comme Witsen fonctionne. Il est le maire d'Amsterdam. Il est un actionnaire très important de la compagnie néerlandaise des Indes. C'est quelqu'un qui donc a ce réseau de collecte. C'est aussi un collectionneur. Mais en réalité, et là, je ne suis pas tellement en accord avec Madame Peters, si on regarde ce qu'il écrit lui-même, c'est assez médiocre. Par exemple, le texte sur l'histoire de la Tartarie, c'est construit un peu n'importe comment. Et même les gens qui ont regardé de près son texte sur la construction des navires s'accordent pour dire que les illustrations sont très bonnes, mais le texte est extrêmement confus. Donc c'est un marchand qui finalement n'a pas pu réussir au niveau de se transformer en savant. Et là encore, donc, je vais rester sur cette idée qui me semble une idée capitale, c'est-à-dire que finalement, même si on peut voir ce réseau néerlandais à l'échelle mondiale comme un grand succès, il y a aussi en quelque sorte un échec. Et l'échec, c'est justement le rapport, et je reviens donc à cette idée, le rapport entre texte et image. C'est-à-dire, il y a l'art de peindre, il y a l'art de représenter d'une façon visuelle, mais finalement, il n'y a pas une capacité de synthèse textuelle, et ce qu'on a donc en tant que production textuelle de la part de ces Néerlandais du 7e siècle reste assez décevant. Et d'ailleurs, on verra ça par l'utilisation que fait le XVIIIe siècle de ces matériaux néerlandais du XVIIe siècle. Si on regarde, par exemple, la grande collection de Picard et de Bernard dans les années 1730, on voit qu'ils ont laissé de côté presque totalement les écrits des Néerlandais. Et, par exemple, on a beaucoup préféré d'autres écrits venant parfois des gens comme François Bernier ou autres par rapport à ces écrits donc venant des savants néerlandais. Donc, en quelque sorte, ils ont tout pour réussir. Ils ont leur réseau, ils ont leurs matériaux, mais ça reste donc en état un peu brut et il n'y a pas de vraie capacité, à mon avis, de pouvoir synthétiser. La semaine prochaine, je vais donc essayer de passer à un sujet un peu qui a un rapport avec ça, c'est-à-dire en passant un peu plus au nord et pour voir donc les rapports entre les Scandinaves et le monde islamique, qui serait donc un peu la suite de ça. Je vous remercie.